Mais donc, ce que je voulais dire, si vous permettez, Daniel, c'est, je crois que maintenant, on va d'abord se poser des questions sur la guerre, parce qu'on aurait tort d'évacuer les dégâts collatéraux, c'est-à-dire des dizaines et des dizaines de milliers d'Irakiens, de femmes, d'enfants, qui vont périr dans cette guerre. C'est déjà écrit. Et s'il s'agit en plus d'une guerre urbaine, avec un véritable combat dans les villes et à Bagdad, Dieu sait à quel niveau de victimes on peut arriver. Mais admettons qu'il y ait aussi des questions pour l'après-guerre, et qu'on puisse se les poser dès maintenant. Bon, il y a la question de l'Irak même, Alain en a parlé, je ne veux pas y revenir. Il y a la question de la gestion mondiale de la planète, on en a parlé, mais il y a aussi la question du Proche-Orient. Et là, je voudrais dire que, à mon avis, rien n'est joué. C'est-à-dire, on aurait tort d'avoir des scénarios catastrophistes ou optimistes. C'est vrai qu'une des hypothèses, c'est que les États-Unis se trouvent dans une telle situation de bourbier en Irak, qu'il soit amené à relancer le quartet, le groupe, pardon, États-Unis, Nations Unies, Union Européenne et Russie, qui est chargé de superviser et d'animer de possibles négociations israélo-palestiniennes en vue de la constitution d'un État palestinien dans un avenir relativement proche. Donc ce quartet a été complètement enterré dans la préparation de la guerre contre l'Irak, en tout cas de manière officielle, même si des négociations se sont poursuivies. On peut imaginer que l'administration américaine, prise dans une situation d'impasse en Irak et ailleurs, essaye de relancer ce processus. Et d'une certaine manière, l'annonce de la nomination, si finalement il l'accepte, d'Abou Mazen comme premier ministre de l'autorité palestinienne, c'est un geste important qui indique à l'ensemble des partenaires du quartet que l'autorité palestinienne est prête à s'engager dans cette négociation avec un certain nombre de conditions qui ne sont pas des conditions particulièrement démocratiques vu la manière dont elles ont été imposées. Mais le fait est qu'il y a là un signe intéressant. Mais on peut aussi imaginer l'exact inverse. C'est-à-dire que la situation soit tellement complexe que des forces, je pense en particulier dans le gouvernement israélien qui vient d'être constitué, essayent d'en profiter pour aller encore plus loin dans l'offensive anti-palestinienne. On n'a pas assez dit que dans le gouvernement Sharon bis, il y a deux partis dont les chefs sont ouvertement, officiellement, en faveur du transfert de population, c'est-à-dire en faveur de l'expulsion des Palestiniens, le Parti national religieux, et le parti dit de l'unité nationale, qui est dirigé par un homme, Avigdor Lieberman, dont la proposition, il y a quelques mois, était de bombarder le barrage d'Assouan, pour donner une leçon aux Égyptiens. Ça donne une idée du caractère extrêmement raisonnable de cette équipe. Eh bien, il suffirait, comme Amir Haas l'a montré dans un article du Monde Diplomatique de février...
Il vient de recevoir un prix, d'ailleurs.
Amir Haas, qui vient absolument de recevoir un prix pour son travail, tout à fait remarquable, elle disait qu'un scud à tête chimique tombe sur Israël, ou bien qu'un méga attentat palestinien fasse plusieurs centaines de morts parmi les civils israéliens, ou bien que des manifestations palestiniennes dégénèrent, tout ça dans le contexte de la guerre, avec l'espèce de rideau de fumée où tout se passe à Bagdad et pas au Proche-Orient, directement au cœur du conflit israélo-palestinien, on peut imaginer une aventure. Après tout, Ariel Sharon ne cesse de répéter, la guerre de 1948 n'est pas terminée. Autrement dit, il y a encore beaucoup de Palestiniens à expulser.